Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Un article vraiment très touchant ce matin dans la presse. Un article aussi qui met en lumière différentes facettes de la violence conjugale. On le sait depuis malheureusement qu'on a connu cette vague de féminicide. On a eu quand même plusieurs sorties publiques de victimes, de survivants de la violence conjugale. Et je trouve ça toujours tellement pertinent de les entendre, ces femmes-là, d'entendre leurs histoires, d'entendre aussi à quel point la victime de violence conjugale, la survivante de violence conjugale ne correspond pas toujours aux clichés qu'on s'en fait. Ça peut arriver à tout le monde, à toutes les femmes, et je les trouve tellement, tellement fortes et courageuses de prendre la parole. Puis bon, cet article-là, ce matin, nous racontait l'histoire de Brigitte Jobin. Elle est là, elle est avec nous. Elle est survivante de violence conjugale. Brigitte, salut.
Salut.
Brigitte Jobin qui a dû attendre 4 ans avant de voir son ex-conjoint être trouvé coupable de nombreux chefs d'accusation, dont agression sexuelle armée, ayant causé des lésions, menaces de mort. Brigitte, vous avez été en relation avec cet homme-là, Jody Matthew Burke, pendant quand même un petit bout de temps. Il a tenté de vous cacher son passé douteux. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous l'avez rencontré et les débuts de votre relation?
Oui, on s'est rencontrés. En fait, M. Burke a été engagé au gym où moi je m'entraînais à Montréal.
Okay.
Puis c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Mais quand il s'est présenté, il s'est pas présenté sous son vrai nom. Ça a pris environ 4 semaines avant que je sache son vrai nom. Puis un autre quelques semaines avant que je connaisse son passé.
Ben c'est ça. À quel moment vous réalisez justement qu'il opère pas, si on veut, sous son vrai nom, puis qu'il vous a caché pas mal de choses finalement sur son passé?
C'est quand on est allé à l'hôpital puis que je l'ai entendu appeler son père puis dire, en fait c'est un anglophone, puis il dit « Hi Dad, it's Jody ». Puis moi, c'était la première fois que j'entendais le prénom de Jody.
Mm-hmm.
Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée chez moi puis j'ai fait une recherche Google pour essayer d'en savoir plus, en fait, du pourquoi il m'avait caché son vrai nom.
Puis qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez fait cette recherche-là?
Quand j'ai fait ma recherche, en fait, j'ai trouvé des articles qui dataient de sa dernière condamnation en Colombie-Britannique pour des faits similaires, en fait, là, pour de la violence conjugale, agression sexuelle. Mm. Puis il y avait aussi un, en fait, c'est plus disponible en ligne maintenant, mais je pouvais lire un peu le résumé de tout le procès qu'il y avait eu.
Là-bas. Oui, c'est ça, parce oui. que je comprends que c'est un homme qui habitait dans l'ouest du pays, qui s'est revenu par ici à un moment donné. Mais néanmoins, il y avait quand même des détails qui avaient, si on veut, semé le doute dans votre esprit. Je lisais dans l'article que lors de vos premières relations sexuelles, vous étiez rendu compte qu'il portait un bracelet GPS à la cheville. Évidemment, vous lui avez posé des questions à ce moment-là.
Oui, en fait, avant même que je lui pose la question, lui m'a expliqué son bracelet à la cheville. En fait, c'est là qu'il m'a avoué qu'il n'habitait pas chez son frère, comme il m'avait fait croire,
okay.
qu'il habitait en maison de transition, puis que son bracelet à la cheville s'était relié à des histoires de gangs de rue en Alberta, mais que j'avais pas à m'inquiéter que personne viendrait me faire du mal ici.
Mm-hmm. Bon, là, il porte un bracelet à la cheville. Vous avez rencontré son agente de libération conditionnelle. Puis, mettons que cette femme-là, vous avez pas dressé un portrait très juste de qui était Jody Matthew Burke, là?
Non, en fait, la première, parce qu'il y a eu plusieurs agentes, la première oui. que j'ai rencontrée, c'était au début de notre relation. Le monsieur était pas encore violent.
Mm.
Puis, en fait, si je me souviens bien, quand je l'ai rencontré elle, sur papier, parce qu'en fond, il devait déclarer ses relations,
mm.
On était considérés juste amis. Donc, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Monsieur Burke, c'est une bonne personne, il a juste des petits problèmes de couple. »
Et pas d'ail. Des petits
exact,
problèmes de couple.
Oui, exact. C'est comme ça qu'elle me l'avait décrit. Puis, quand j'ai rencontré une autre agente par la suite, j'étais déjà dans l'enfer, disons, de la violence. Puis, quand elle m'a dit « Est-ce que vous voulez lire le profil de monsieur? » J'ai dit non parce que, de toute façon, je savais ce que j'allais lire. Là, j'étais déjà prise dedans.
Oui. Quand est-ce qu'elle a commencé, Brigitte, cette violence-là?
Elle a commencé peut-être 5-6 semaines après notre rencontre. Ça a été très, très rapide.
Puis, ça se manifestait comment? Parce qu'il était accusé quand même, il avait été reconnu coupable de crimes quand même assez violents. Quelle forme elle prenait, cette violence-là, envers vous?
elle a pris en fait toutes les formes, là, je dirais violence psychologique, sexuelle, physique, financière. J'ai eu la totale. C'est une personne extrêmement violente, une personne contrôlante. Il y a eu les menaces de mort aussi, donc c'est il n'y a pas d'autre mot, là, c'est la totale.
Vous avez pris la peine de dire dans votre entrevue que vous avez accordée que de l'extérieur, vous sembliez être une femme très forte, mais que pourtant, vous étiez complètement sous son emprise. Ça se manifestait comment?
Son emprise?
Oui.
Ben, ça se manifestait. Monsieur vérifiait mon cellulaire, mon historique d'appel et d'Internet à chaque soir. Il avait mon Facebook ouvert sur son ordinateur à son travail en temps réel. Donc, il voyait tout ce que je faisais, à qui je parlais. Si une de mes amies me textait, je devais lui demander quoi lui répondre pour être sûr que ça fasse son affaire et vérifier. Il avait fait un ménage de mes amis Facebook pour enlever tous les hommes de mon Facebook.
C'est important de dire que de l'extérieur, vous avez l'air d'une femme très forte avec un fort caractère. C'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde, que même si on a un fort caractère puis qu'on se tient debout dans la vie, on peut tomber sous l'emprise de quelqu'un comme ça et on peut...
Totalement.
Parce qu'on a peur.
En fait, oui, il y a énormément de peur. Puis c'est que le contrôle s'installe de manière très insidieuse. Au début, il m'a pas dit ne parle plus à telle personne. Puis ça se fait vraiment de manière à ce que, en peu de temps, j'avais coupé les liens avec tout le monde. Puis aussi, comme les menaces de mort de si tu me dénonces, je te tue, si tu parles. Donc, j'étais vraiment prise de... J'étais prise, c'est vraiment le mot.
Oui, puis bon, quand on voit sa photo aussi dans la presse et qu'on se rend compte que c'est un spécialiste des arts martiaux mixtes, là, en tout cas, moi, je trouvais que ça rajoutait à l'espèce de violence de toute cette histoire-là, là, cette idée justement qu'il pouvait vous faire encore plus de mal là, parce qu'il était spécialiste des sports de combat.
Ah oui, j'avais aucune chance. En fait, pendant toutes les agressions, là, pendant les 5 mois d'agression, j'ai jamais essayé de me défendre. Sauf une fois parce que j'étais en train de manquer d'air parce qu'il m'étranglait, mais sinon, j'essayais juste de le calmer, de le raisonner. Je savais que j'avais aucune chance.
À cause de ça?
Exactement.
Avez-vous eu peur de mourir?
Ah oui, plusieurs fois. Ben, c'est triste à dire, mais il y a des moments où j'ai souhaité mourir parce que je me disais, ça va être plus facile que d'endurer ce que j'endure. Parce qu'il y a eu un moment où je savais pas comment sortir de là. Puis, c'était une option qui m'apparaissait. C'est triste à dire, là. Je sais que c'est triste puis dur à entendre, mais.
Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui se sentent comme ça.
Oui. Puis, même par après, là, je vous dirais que de vivre avec. Moi, je l'ai fait arrêter au début juin, puis pendant tout l'été, là, ça a été difficile pour moi de dormir. Parce qu'au début, je me disais, j'ai envoyé quelqu'un en prison. Alors que, c'est tellement pas ça, là. C'est lui-même qui s'est envoyé en prison, mais. En tant que survivante, là, c'est quand même un fardeau qui était très difficile à porter au départ.
Ben oui, puis vous me parlez de toutes les horreurs que vous avez subies. Pourtant, vous ne voyez pas comme une victime de violence conjugale dans votre tête. Vous vous disiez pas « je suis victime de violence conjugale ». À partir de quel moment vous êtes dit « hey, c'est grave, ce que je vis, c'est de la violence conjugale ».
Mais en fait, c'est que je savais que c'était malsain, je savais que je devais sortir. Mais tu sais, moi-même, avant de vivre ce qui m'est arrivé, j'avais des préjugés sur les victimes de violences conjugales, puis je m'identifiais pas à ces femmes. En fait, même après l'arrestation, quand la dame de la CAVAC m'a demandé « Veux-tu aller dormir ensemble de femmes battues? », j'ai tout de suite répondu « Non, 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 je m'identifie pas à ces femmes-là. » Donc, c'est dur de... C'est comme un chapeau difficile à porter, celui de femmes battues, là. C'est vraiment quelque chose qui est lourd à porter.
Hey, vous n'êtes pas la première à me dire ça, puis vous n'êtes pas la première non plus à me dire que la vision des maisons d'hébergement, c'est pas une vision qui est nécessairement positive. C'est comme si on se ramassait là, comme si dans le fond, c'était un échec quelque part.
Ben en fait, c'est qu'il y a tellement de stéréotypes sur les femmes battues, puis tu sais, même les gens dans leur façon de poser les questions, c'est parfois maladroit, puis tu sais, je peux comprendre les maladresses, mais... Il y a beaucoup encore de stéréotypes qu'il faudrait faire tomber, puis la façon de l'aborder aussi, c'est pas toujours fait de la bonne façon, je dirais.
Bien, c'est vrai, puis j'avais envie qu'on parle du fait que vous aimez mieux qu'on parle de vous comme une survivante de la violence conjugale que comme une victime de la violence conjugale. Pourquoi?
Parce que, tu sais, sans s'attaquer à l'origine du mot victime, là, dans ma tête, à moi, une victime, c'est quelqu'un qui est dans un accident de voiture, puis que... C'est un accident, personne n'a fait exprès. Tandis que la violence conjugale, il y a clairement quelqu'un qui a fait le choix de me violenter. Donc, je ne suis pas une victime, c'est pas un accident. C'était un choix, c'était des actes choisis. Puis je m'en suis sortie, donc c'est pour ça que je dis que je suis une survivante.
Ben oui, puis Brigitte, on se parlait tantôt du fait que c'était difficile de faire des sorties comme ça quand même, mais on a eu toute cette discussion sur la violence conjugale, la remise du rapport Rebâtir la confiance. Vous avez décidé de parler de ce que vous avez vécu à visage découvert parce que, en tout cas, j'ai l'impression que vous vouliez montrer en quelque sorte que ça se pouvait, que le système fonctionne. Est-ce que dans votre cas, vous estimez que ça s'est bien passé, le processus judiciaire, tout ce qui s'en est suivi?
Ben, je peux dire que au départ, l'arrestation et tout ça, là, la prise en charge, j'ai eu des procureurs extraordinaires au dossier, les enquêteurs étaient extraordinaires aussi. J'ai été crue par les policiers qui m'ont accueilli. Le début a bien été. Le dénouement hier était au-delà de mes attentes, mais je vous dirais que les 4 ans entre les deux a été extrêmement pénible.
Pourquoi?
Parce que c'est long, 4 ans. Moi, ça fait 4 ans que je dois raconter mon histoire, raconter, oui. Puis
des remises.
Que je sois crue, puis des remises.
Oui.
Sans arrêt, là. Ça a été à chaque fois que j'avais un appel de la procureure ou de l'enquêteur, je me disais, bon, il va encore avoir une remise. C'est extrêmement long, 4 ans.
Ben oui, c'est long. Puis en plus de ça, je pense que il y avait une certaine peur à un moment que le processus soit invalidé. Là, on sait que souvent ça tient sur des points de bras de droit, puis que c'est excessivement ténu. Là, heureusement, 4 ans plus tard, 4 ans, c'est tellement long. Votre ex-conjoint qui est trouvé coupable de nombreux chefs d'accusation, agression sexuelle armée, je le disais, ayant causé des lésions, menace de mort. Brigitte Jobin, merci vraiment d'avoir partagé votre histoire avec moi. Merci beaucoup.